J'attends, cher Sangha. Nous sommes le 29 avril 2018, dernière journée de la retraite. Nous sommes au pas de Lotus et nous sommes à la Villa Saint-Martin, Pierrefonds, Québec. Nous avons eu une très belle cérémonie de transmission ce matin. Je suis très heureux à chaque fois de pouvoir participer à cet événement heureux. C'est bien qu'on peut la nommer, qu'on peut l'identifier. C'est déjà un pas vers la paix. Ce matin, au programme, comment vivre cette pratique dans notre vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Hier, il y avait une question, comment est-ce que nous pouvions vivre, c'est ça, l'inter-être. Et je pense que c'est une question très importante. C'est très important parce que on peut parler, on peut philosopher beaucoup, mais ce n'est pas ça qui peut aider. Le but de notre pratique, c'est de pouvoir nous transformer. Et une transformation qui peut se faire et qui devrait se faire à la base. À la base, c'est-à-dire transformer notre conscience de tréfonds. Et pour cela, comment est-ce que l'apprentissage des 50 versets ont pu, auraient pu, pourront nous indiquer le chemin, la voie. Nous sommes le produit de notre conscience de tréfonds. Notre conscience de tréfonds contient toutes les graines possibles, imaginables, que nous pouvons toucher, que nous ne pouvons même pas soupçonner. Mais nous contenons toutes les graines. Nous comprenons les graines de bonheur, d'amour, de compassion, et nous comprenons aussi les graines de souffrance, les graines de violence, les graines de cupidité. Toutes les graines sont en nous. Et celles qui se manifestent le plus facilement, celles qui se manifestent le plus visiblement, le plus fortement, sont celles que nous avons entretenues, c'est celles que nous avons arrosées, c'est celles que nous avons nourries par notre vie de tous les jours, et par notre environnement. Apprendre la nature non dualiste de la souffrance et de la mort, de la souffrance et de du bonheur, nous rappelle, comme Lily le disait hier, que ceci est parce que cela est. Et parce que ceci est, nous pouvons être sûrs que l'opposé est là aussi. Si nous sommes en train de souffrir, c'est une indication, c'est un rappel que le bonheur existe aussi. Si nous sommes en train d'être dans l'extase, watch it, parce que ça ne peut pas durer. La pratique que nous faisons, c'est d'être toujours vigilant, d'être toujours présent à ce qui est en train de se passer pour pouvoir être en contact avec la réalité de l'instant. Et dans la réalité de l'instant, il y a de la souffrance, mais il y a aussi beaucoup de conditions de bonheur. Et nous savons que notre alaya contient aussi ce que nous appelons l'énergie d'habitude, les chemins. Dans le temps, quand il n'y avait pas de route, les chevaux et le monde passait, et ça déterminait des routes. Et lorsqu'on lâche le cheval, il s'en va, il sait où il doit s'en aller. C'est toujours le même chemin, c'est toujours la même route. Et à l'intérieur de nous, nous nous sommes créés aussi beaucoup de ces routes en travers de notre forêt. Et c'est pour ça qu'elles sont toutes imprimées dans notre conscience de tréfonds. Et c'est pour ça que lorsque quelque chose se déclenche, on n'a même pas le temps d'y penser. On s'engage dans cette voie et on est parti. Il y a de très bons chemins, il y a de très beaux chemins. Et une chance qu'ils sont là. Nous n'avons pas besoin d'y prêter toute notre attention. Et une chance que nous n'avons pas à le faire parce que ce serait très fatigant. Mais tout ce qui est en train de se passer, on est capable de le capter et on est capable de réagir. Sans penser. Et c'est merveilleux. Quand on touche quelque chose de chaud, notre doigt sait qu'il faut qu'il s'en dégage. Il n'a pas à attendre que l'esprit reconnaisse que c'est chaud, que la chaleur peut brûler, et que quand tu brûles, ça fait mal. Si nous devons passer en travers de ce que nous appelons la conscience mentale, pour tout ce que nous faisons, ça serait très fatigant et ça serait dangereux. Alors donc, notre être est très très bien fait. Et cette capacité que nous avons d'apprendre, cette capacité que nous avons de pouvoir déterminer et tracer des nouveaux chemins, c'est le travail que nous voulons faire. Il y a des chemins qui sont préétablis, qui nous sont bénéfiques et que nous voulons cultiver pour garder. Mais il y en a qui ne sont pas très utiles. Mais nous tombons toujours dedans. Et je pense que nous pouvons chacun juste regarder notre histoire de vie pour savoir comment il nous est facile de réagir et de tomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes réactions. Et ce n'est jamais ce que nous souhaitons, ce que nous voulons faire. Alors cette pratique, c'est une pratique qui nous permet de pouvoir nous arrêter pour pouvoir voir, prévoir, savoir ce qui est en train de se passer et savoir qu'il y a des indices qui se sont passés, il y a des stimuli qui viennent d'être déclenchés et que nous sommes en train de nous engager encore sur ce vieux chemin. Pour pouvoir nous donner le temps de nous arrêter et de prendre le chemin que nous avons déjà décidé et que nous savons qui peut nous aider. C'est un processus qui est simple à décrire, mais il n'est pas facile. Et je peux vous dire que je m'engage dans des conversations avec Lily, et je sais comment ça va finir, et ça finit toujours comme ça. Parce que je dis un mot, je ne suis pas très conscient, et Lily rentre dedans tout de suite, et elle m'engueule. Ça fait 25 ans qu'on pratique ensemble, et ceux qui nous connaissent et nous reconnaissent, vous êtes comme un vieux couple marié. Mais c'est ça, les vieux couples mariés. Ils le savent. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Puis là, je dis, arrêtez. Puis elle continue. Arrêtez. Un son de cloche, s'il vous plaît. Alors donc, la pleine conscience et l'arrêt, c'est à cela que ça sert. Ça sert, c'est cette énergie, c'est cette capacité que nous voulons nous développer pour pouvoir nous arrêter afin de nous engager trop loin sur des chemins glissants. Et comment est-ce qu'on fait cela? En cultivant la pleine conscience. La pleine conscience est une graine, la pleine conscience est une énergie. La pleine conscience est une capacité. La pleine conscience est quelque chose qui est inné et que nous avons tous à l'intérieur de nous. Mais c'est comment la cultiver, comment la nourrir, comment la renforcer pour qu'elle puisse nous aider à faire le travail de transformation. Écouter un son de cloche, s'arrêter, respirer, c'est pratiquer à pouvoir renforcer notre capacité, notre énergie de pleine conscience. Et lorsque la pleine conscience est là, nous pouvons être assez vigilants pour détecter tous les dharmas qui sont en train de se manifester, qui sont en voie de se manifester et qui sont en train de se manifester. Et nous pratiquons ce que nous appelons l'arrosage sélectif. Nous pratiquons l'arrosage sélectif pour pouvoir choisir ce à quoi nous voulons nous exposer et ce dont nous voulons nous détacher. Pour cela, il y a un petit livre, je ne sais pas s'il est toujours en vente, qui connaît le gâta de la méditation marché. Ceux qui ont le livre, qui se souviennent du gâta de la marche, on les connaît tous. Vous voyez, c'est ça qui est le danger. Le danger, c'est, je le sais. Mais il faut plus que le savoir. Il faut s'en souvenir. Et la pleine conscience, c'est je me souviens. Dans un de ses premiers voyages au Québec, nous a donné cette leçon. Il nous dit, sur les plaques du Québec, vous avez un merveilleux message. Je me souviens. Et je me souviens, c'est une pratique de pleine conscience. Mes idées vont dans mille directions, mais sur ce chemin de pratique, mon âme est en paix. À chaque pas se lève un vent léger, à chaque pas fleurit une fleur de lotus, et nous marchons, et nous voyons les fleurs s'éclore. Et c'est cela la pratique de pleine conscience. Et nous pratiquons quand nous nous levons le matin. Je me réveille en souriant pour accueillir 24 heures toutes nouvelles. Je fais le vœu de les vivre dans la pleine conscience et de regarder le monde avec les yeux de la compassion. Et nous le faisons chaque matin. Et pendant la journée, il nous arrive de nous endormir. Pas seulement endormi, mais endormi. Endormi dans le sens de non éveillé. Nous écoutons le son de la cloche et nous récitons un autre gâta. J'écoute ce son merveilleux de la cloche. Il me rappelle à ma pratique. Et ma pratique, c'est de m'éveiller. Et je récite encore, je me réveille en souriant. Parce que la cloche vient de me rappeler que je suis en train d'être endormi. Et je me réveille en écoutant le son de la cloche. Et je fais le vœu de vivre dans la pleine conscience. Encore. Et encore et encore. J'ouvre le robinet et je récite un autre gâteau. Je me regarde dans le miroir et je récite un autre gâteau. Et toutes ces choses-là sont des pratiques que nous pouvons apporter dans notre vie de tous les jours. Et toutes ces pratiques, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous rappellent au miracle de la vie. Respire, tu es vivant. Qu'attends-tu pour être heureux? La vie est en train de se passer ici et maintenant. Et on se réveille à cette merveilleuse réalité. Je suis vivant. Qu'as-tu besoin d'autre pour être heureux? Et ça peut se passer à tout instant. Et à chaque instant, nous pouvons nous le rappeler. J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. Je m'établis dans l'instant présent. Cet instant unique et merveilleux. C'est le seul. C'est le dernier. Et c'est le premier. Toutes les pratiques que nous faisons aussi, tous les gathas qui sont écrits, nous rappellent la réalité de l'inter-être. Nous sommes devant notre assiette vide et nous nous disons, cette assiette bientôt sera remplie de nourriture. Mais nous savons aussi qu'en même temps dans le monde, plusieurs enfants se promènent avec la canette vide et cette canette ne se remplira jamais de nourriture. Et peut-être que la nuit qui va venir va être la dernière nuit parce qu'ils auront succombé à la famine. Et beaucoup d'enfants meurent encore dans le monde parce qu'ils n'ont pas encore assez à manger. Mes amis au Vietnam font beaucoup d'œuvres sociales maintenant. Il n'y a plus de guerre, mais les conditions d'hygiène et de nutrition et d'éducation sont encore très déficients. Un pont de 2000 dollars peut sauver beaucoup de vies d'enfants. Parce que lorsqu'ils vont à l'école et qu'ils doivent traverser des ruisseaux, il y en a qui sont emportés par les flots et qui meurent. Un puits d'eau peut sauver des villages. Et il y a beaucoup de travail à faire. Et mes amis là-bas sont très occupés pour faire tous ces travaux. Le bonheur et la souffrance. Quelqu'un a posé la question, comment ça peut être là en même temps? C'est toujours là en même temps. Ils sont toujours ensemble. L'un ne peut pas être séparé de l'autre. Ils coexistent. C'est la même réalité. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur qu'un dollar peut apporter dans ces villages. Vous donnez une feuille de, un cahier de papier avec une boîte de crayons de couleur et vous voyez leurs yeux s'illuminer. C'est beaucoup plus qu'un iPad de 2000 dollars ici. S'il n'y a pas de souffrance, il ne peut pas y avoir de bonheur. Les personnes qui sont ici, qui sont de ma génération, savent ce que c'est que de recevoir un cadeau à Noël et de le déballer sans trop savoir ce qu'il y allait y avoir. Mes enfants n'ont jamais à attendre Noël. C'est tout de suite. Ils ne peuvent pas connaître cette joie, cette anticipation de pouvoir recevoir quelque chose que tu as attendu toute l'année. Tu écris au Père Noël et tu dis, j'ai été sage pendant toute l'année. Et c'est ça que je voudrais. Lors d'une retraite à Boise, Idaho, c'était dans un camp de chasse, très très beau. Les places où les millionnaires se ramassent pour jouer au golf. Mais cette année-là, j'étais là et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le chauffage ne marchait pas. Et comme c'est un très grand camp, les cabines et les maisons sont éloignées l'une de l'autre. Donc j'ai passé la nuit dans une maison non chauffée. Et il fait très froid dans les Rocky Mountains. Quand tout le camp s'est réveillé et qu'on a pu reprendre nos activités, j'ai pu les rejoindre dans la salle à dîner. Et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai ressenti lorsque j'ai pu rentrer dans cette cabine chauffée. Et je comprends que c'est lorsqu'on a froid, très froid, qu'on peut apprécier un chauffage. Et de la même façon, Thaï rappelle toujours à ses jeunes moines, parce que les jeunes moines maintenant ont des quartiers très confortables. Mais Thaï leur rappelle qu'au début du village du Prunier, et nous étions là aussi, il n'y avait pas de chauffage au village du Prunier. Et avant de nous coucher, on se faisait des bouillottes, tu connais ça? Donc on remplissait nos bouillottes d'eau chaude et on les mettait dans le sac de couchage. Mais vers 2-3 heures du matin, c'est devenu des blocs de glace. Et c'est comme ça les conditions du village avant. Et on avait beaucoup de plaisir lorsqu'on pouvait se ramasser autour du poêle avec Thaï pour prendre le thé. Mais maintenant, le chauffage est automatique et on perd ce plaisir, ce bonheur à apprécier la chaleur d'un poêle à bois. Alors la souffrance est une condition de bonheur. Si on n'a pas connu la souffrance, c'est difficile de connaître le bonheur. Et si on n'a que le bonheur va devenir souffrance. N'est-ce pas? Because boring. Alors donc, si vous êtes en train de souffrir, bienvenue. Félicitations. Si vous êtes en train d'être dans l'extase, be careful, watch out. Tous les gathas de pratique ont cette particularité, ont cette qualité. Premièrement, ils nous permettent de nous arrêter. Ils font travailler notre esprit mental. Et pendant que nous travaillons notre esprit mental, nous sommes en train de cultiver, de semer et d'arroser les plantes les plus belles dans notre conscience de tréfonds. Je me lève et je me brosse les dents. Et je fais les vœux que chacune de mes paroles soit une source de fleurs et de bonheur pour ceux qui m'entendent. N'est-ce pas merveilleux? Et si à chaque fois que nous faisons un acte, un geste, nous nous rappelons à la pleine conscience, nous disons, arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire? What are you doing? C'est ça la pratique de l'arrêt. C'est ça la pratique de la pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. Et pendant que nous faisons cela, j'inspire, je me calme, j'inspire, je souris, je suis en train de renforcer ma capacité de pleine conscience. Et parce que je suis arrêté, parce que je suis avec ma conscience mentale, parce que j'ai le cœur ouvert, c'est le temps que j'ai aussi pour pouvoir semer les bonnes graines dans ma conscience de tréfonds. Et chacun de ces gathas renferme des belles fleurs que nous pouvons semer. Ça peut être une belle parole qui fait éclore une fleur dans notre cœur. Et ça peut être aussi une image qui nous fait pratiquer. Regarder dans le miroir et voir que nous reflétons les quatre grands éléments, c'est une leçon. C'est une leçon d'inter-être qui nous rappelle notre vraie demeure, notre vraie nature. Les quatre grands éléments sont ce que nous sommes, et nous sommes une manifestation, une coïncidence, une rencontre de ces quatre grands éléments, et nous nous voyons dans le miroir. C'est beaucoup plus que ce visage, c'est beaucoup plus que ce corps de... J'avais dit 60 kilos. Peut-être que je suis rendu à 62 avec tout ce qu'on mange ici. Mais nous sommes beaucoup plus que cela. Et comment nous le rappelons en nous regardant dans le miroir et en contemplant notre plat, cette nourriture, don de l'univers tout entier. Et nous voyons que nous sommes interdépendants, que nous dépendons du soleil, que nous dépendons du fermier, que nous dépendons de la terre, que nous dépendons de la pluie. Tous ces éléments qui se sont combinés ensemble pour se manifester comme une tomate dans notre plat. Et nous poursuivons notre contemplation et notre apprentissage et notre compréhension et notre vision de l'inter-être. N'est-ce pas? Chaque activité, chaque chose que nous faisons pendant notre journée est une occasion pour nous de nous arrêter, de revenir à la vie, d'observer la vie qui est en train de se passer et d'y déceler et d'y voir tous les éléments d'inter-être, d'interdépendance qui sont en train de se passer. Juste là. Nous allumons la lumière et nous nous disons la pleine conscience, c'est la lumière qui éclaire ce monde. Et qu'est-ce que ça éclaire? Ça éclaire et ça nous donne la réalité. Et c'est comme ça que nous pratiquons l'inter-être. C'est comme ça que nous pratiquons pour pouvoir transformer notre conscience de tréfonds. Nous utilisons notre conscience sensorielle pour pouvoir nous mettre en contact avec tout ce qui est. Nous voyons, nous sentons, nous pensons et toutes ces choses-là qui font partie de nos consciences sensorielles. Nous utilisons notre conscience mentale pour pouvoir choisir et décider de qu'est-ce que nous voulons faire, voir, penser, afin de pouvoir influencer, imprimer, semer de nouvelles graines, imprimer des nouveaux circuits dans notre conscience de tréfonds. Et c'est cela le travail que nous appelons le travail de transformation à la base. Et ce sont les enseignements des 50 versets. Et nous comprenons maintenant pourquoi Thay nous a donné ces pratiques si simples. Et que si nous les pratiquons, pourquoi, comment les résultats peuvent changer notre vie? Parce qu'en nous arrêtant, qu'est-ce que ça fait? En prononçant un verset, en récitant un sutra, qu'est-ce que ça fait? Toutes les pratiques que nous faisons ont pour cet objectif de transformer notre conscience de tréfonds et transformer notre vie. Je vais m'arrêter ici pour vous permettre de poser deux ou trois questions. Sachant qu'on n'aura plus la chance de se revoir avant 6 mois. Le petit livre s'appelle Gatha de Tignacan et le monsieur qui est à côté de vous, là, c'est, oui. Si vous êtes gentil avec, pour un petit prix, il va vous en donner. Mais avec le livre, il y a aussi un autre livre qui permet de mieux pratiquer ces gathas. Ça, c'est un aide de mémoire de poche qui nous permet de pouvoir nous les rappeler. Mais il y a un livre où Thay explique chacun des gathas, la provenance et comment pratiquer avec les gathas. Et comme on est dans les livres, il y a aussi un livre que je nous conseille beaucoup d'avoir si nous voulons pratiquer. C'est Blooming of the Lotus. Un lotus s'épanouit. Il y a une pratique que nous faisons souvent et qui est chanter. C'est une pratique profonde et merveilleuse. Et je ne chante pas bien, mais j'essaie, ou bien quand je le fais en dedans de moi, ou bien dans la douche pour que personne ne m'entende. Mais c'est une pratique qui permet de travailler à la base. Nous ne pensons pas, mais ça atteint notre conscience de tréfonds. Et ça rallume et ça réimprime. Lorsque Marielle a chanté le chant de la marche, le gatha de la marche, il n'y a rien de plus merveilleux que de pouvoir marcher en chantant. Mais lorsque le chant accompagne ce que nous sommes en train de faire, ça apporte de la joie dans l'action et ça rappelle aussi, ça touche toutes ces graines-là qui sont là, que nous voulons embellir. Alors chanter, c'est une merveilleuse pratique. L'autre chose aussi qui est bien, c'est les méditations guidées que Lily fait. Lorsque nous sommes en méditation guidée, le mental travaille peu, mais la conscience de tréfonds est ouverte et reçoit. Et c'est pour ça que je voulais conseiller le livre « Un lotus épanoui ». Ce sont toutes des pratiques pour l'application de la pleine conscience. Et il y a différents thèmes pour les méditations guidées qui nous permettent de pouvoir travailler ces aspects de l'intérêt-être. J'ai trouvé que pendant la retraite, on ne chantait pas assez. Et j'ai trouvé aussi que lorsqu'on chante, non, c'est pas que j'ai trouvé. J'aime cela quand on chante, de chanter la même chanson plusieurs fois. Justement pour pouvoir dépasser le niveau de la conscience mentale. Lorsqu'on cherche les mots, lorsqu'on lit les mots, ça reste à la surface, ça reste dans la conscience mentale. Mais lorsque ça devient quelque chose qui est après 3-4 fois, ça a eu la chance de toucher, le temps de toucher les graines enfouies. Et les graines sont en train de se manifester. Et c'est un pouvoir de transformation plus fort. Alors chantez la même chanson 3, 4, 5 fois. Et vous verrez comment notre corps se met en accord, en vibration avec les paroles. Et comment tout notre être est en train d'assimiler et de vibrer, pas seulement ces mots, mais également ces idées profondes. Toujours pas de questions et je parle. C'est quoi votre vraie souffrance? C'est quoi votre vrai bonheur? Plutôt qu'une généralité comme cela, parce qu'une généralité, c'est très difficile à répondre. Donc la question est un peu plus claire et la réponse est vous ne pouvez pas avoir le bonheur tout seul. C'est comme vouloir avoir la droite sans la gauche. Savez-vous c'est quoi le bonheur véritable? Parce que le bonheur véritable, c'est pas le bonheur. Le bonheur véritable, c'est pas de bonheur. Vous me comprenez? Parce que lorsque vous parlez de bonheur sans souffrance, c'est que vous venez de couper le monde en deux. Et votre question, est-ce qu'on peut avoir le bonheur véritable sans souffrance? La réponse que j'ai pour vous, c'est que le bonheur véritable n'existe pas. Il n'y a pas de bonheur véritable. Le bonheur qu'on parle, c'est un bonheur qui est illusoire. C'est un bonheur qui est une apparence. C'est un bonheur qui n'est pas vrai. Lorsque nous pratiquons vers la fin de la pratique, et je ne suis pas là encore, nous pratiquons les trois sauts. Et le dernier saut, c'est le nirvana. Et le nirvana, c'est l'extinction des concepts, l'extinction des notions. Le bonheur est un concept, le bonheur est une notion, le bonheur est une croyance. Et le bonheur véritable, c'est lorsqu'il n'y a plus de bonheur. C'est lorsqu'il n'y a pas de bonheur, lorsque le mot bonheur n'existe même pas. Lorsqu'on parle de la relativité, lorsqu'on parle de bonheur et de souffrance dans le contexte de cette retraite, on parle au niveau de notre vie quotidienne. Et au niveau de notre vie quotidienne, nous travaillons sur des symptômes. nous travaillons sur... Je pense qu'on devrait arrêter ici. Je m'excuse, c'est une question trop compliquée.
Et c'est ça ce qu'on appelle la dimension ultime. Et c'est ça où il y a l'eau plate, miroir, tranquille. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bonheur. N'importe quoi. Bien, je suis bien. Mais on le sait. Et la vie actuelle va nous ramener aux vagues, aux possibilités des vagues. Mais on a une force intérieure, on s'est pris en main et on devient souverain. Et ça, c'est un mot que j'aime parce que je peux faire ce que je veux. Même si on me lie les mains et les pieds, je peux faire ce que je veux. Je peux être heureuse quand je veux, à n'importe quel moment. Faire de notre vie une poésie. Et Dominique me l'a rappelé hier. Il écrit des poèmes. Et je lui ai dit, continue à écrire. Surtout, ne t'arrête pas d'écrire des poèmes. Quand on écrit des poèmes, on est dans la dimension ultime. Et il ne faut pas mourir pour atteindre la dimension ultime. La dimension ultime, elle est partout. Alors, c'est merveilleux.
Donc, merci pour la question. On se quitte avec une grande question. Et peut-être que la réponse, c'est Thaï qui nous l'a donnée aussi. Il faut faire attention aux mots. Et les mots peuvent nous créer des maux de tête. Et ça s'appelle des casse-têtes. Alors, je pense que je vais essayer de ne plus jamais utiliser le mot bonheur. Merci beaucoup.